Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors nous prenons maintenant un moment pour vraiment nous approcher de Dieu au travers de sa parole et d'entendre de lui encore et de ceux qui me connaissent un peu. Il y a peut-être des expressions qui reviennent souvent. En fait, moi j'ai l'impression de le dire souvent, mais je continuerai de le dire, que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Je veux vraiment faire la différence entre ce que certains de l'extérieur, dans le monde aussi, on observe, et puis on dit des fois, c'est pour eux, ils appellent ça du prêchi-prêcha, ou de la morale, ou je ne sais quoi. J'ai lu qu'il y a le troisième épisode du film de Narnia qui va sortir, et donc le commentaire que j'ai lu, donc il disait que justement que c'est le meilleur des trois et qu'il n'y a pas ce prêchi-prêcha religieux a été relégué à l'arrière-plan. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas Narnia, mais il est sûr que l'analogie, surtout dans le 1, entre le roi représenté par le lion qui sacrifie sa vie et ensuite qui la retrouve par une forme de résurrection, il y avait des analogies qui étaient évidentes et donc qui ne plaisent pas au monde, mais ce n'est pas surprenant, hein. Mais donc il y a quelque chose qui doit être vraiment sûr en nous, c'est que nous ne prêchons pas la morale, nous ne prêchons pas des préceptes religieux, mais nous voulons communiquer des paroles qui sont esprit et vie. Et nous sommes les premiers bénéficiaires parce que nous le sentons ce que ça produit en nous. Nous sentons que ça nous ferait aucun bien d'avoir la tête remplie de toutes sortes d'idées. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le vécu. Qu'est-ce que je vis avec Dieu? Qu'est-ce que j'entends de lui? Comment il me guide dans le quotidien? Et aussi, est-ce que je progresse? Est-ce que je suis en progression ou en régression? J'ai l'impression que dans la vie, on ne peut pas tellement rester neutre. Et je me suis fait là encore la réflexion, pas plus tard que hier, avec des personnes avec l'âge, si elles ne travaillent pas comme nous voulons le faire, travailler à soi-même, laisser Dieu nous perfectionner, on se rend compte que certaines personnes, elles diminuent, elles régressent, elles deviennent de plus en plus pénible pour leur entourage, négative et des fois rempli d'amertume, de rancune pour plein de choses. Et je dis, bon, c'est vraiment une triste fin. Mais nous devons mutuellement nous exhorter réciproquement à laisser toujours plus Dieu agir pour aller dans cette voie de l'excellence. L'excellence, c'est ce que nous visons. Nous visons l'excellence et nous n'avons pas honte de le dire. Et ça doit être notre objectif absolument, l'excellence. Et l'excellence, comme j'ai eu l'occasion déjà de l'enseigner, mais c'est important qu'on se le rappelle, l'excellence n'est pas une position. Ça y est, maintenant je suis excellent. On peut être noté à l'école et on peut dire, bon, ben voilà, on a les notes du bac, hein, on a le 10, c'est le passable, le 12, c'est assez bien, 14, c'est bien, 16, c'est très bien. Et 18, c'est excellent. Hein. Quelqu'un qui a 18, c'est excellent. Donc, scolairement, ça peut être une position. Mais pour nous, l'excellence, c'est pas une position. Ça y est, maintenant, je l'ai atteint. Je suis un chrétien excellent. Le chrétien excellent, c'est celui qui cherchera toujours à mieux faire. Il ne va pas dire, maintenant, je suis au-dessus de la moyenne des chrétiens. Je peux donc être satisfait. Parce que ça, c'est le faux argument de beaucoup. Je suis pas pire qu'un tel. Donc, ça va. Non, mais par désir de plaire à Dieu, puisque nous l'aimons, on va essayer de lui ressembler. Et alors, je me rends compte quel décalage des fois. On a eu des vieux cantiques. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Mais en réalité, sans mentir, combien de ceux qui l'ont chanté ont réellement pensé, au moment où ils le chantaient, mon espoir suprême, c'est te ressembler. Parce que là, il y a un décalage. Autant le chant est parfait, les paroles sont excellentes, et je recommande de chanter, mais à un moment, il faut qu'il y ait adéquation, il faut que ça colle entre ce que je chante et ce que je désire. Donc, pour nous encore, sachons à quoi nous sommes appelés, c'est un peu mon titre, sachons à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à laisser Dieu se développer en nous, apprendre de lui, être transformé en sa présence, transformé. Je pense que lorsque j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais plus vu depuis des années, ça s'était passé il y a bien longtemps, m'a dit « Ah, tu n'as pas changé ». Alors, selon le cas, ça peut être bien, selon le cas, ça peut être pas du tout un compliment pour un chrétien. Si on lui dit « Tu es toujours le même », c'est-à-dire « Tu n'as rien progressé, tu as toujours les mêmes défauts, tu as toujours les mêmes réactions, donc laisse Dieu te changer ». Et comment pourra-t-il le faire? Comment pourra-t-il le faire? Si ce n'est au travers des occasions qu'on lui donne. Alors, je me suis fait une réflexion par rapport à notre église locale aussi, par rapport à l'œuvre de Dieu d'une manière générale. Je me suis dit, voilà, concrètement, nous sommes ici, par exemple, partenaire avec enseignemoi.com, qui est un excellent ministère que nous apprécions beaucoup pour ce qu'ils font. Et Samuel m'avait vraiment impressionné de dire qu'il a été sur le site et il a pu voir ce qui se passait au niveau technique, de voir tout cet affichage de messages qui sont vus et écoutés en permanence. Donc il y a maintenant, avec la technologie, un moyen que la parole soit diffusée, répandue encore et encore et encore, et ça pratiquement 24 heures sur 24. On est à une période où vraiment la connaissance, elle peut se répandre, et ça c'est quelque chose de formidable. Ensuite, nous sommes partenaires aussi avec Réma, où j'ai eu l'occasion, déjà par le passé, on a beaucoup reçu par ces ministères, et maintenant concrètement avec Réma France, d'enseigner dans cette école biblique. Et là, je voudrais simplement vous rappeler leur vision. Ils ont fait un petit carton, et là, ils ont mis leur vision. Établir le chrétien à travers un solide fondement de la parole de Dieu. Deuxièmement, le former de façon pratique selon la parole et l'Esprit de Dieu. Troisièmement, l'encourager à accomplir son appel au sein du corps de Christ, là où Dieu l'envoie. Donc voilà une vision qui est très facilement, on peut facilement la visualiser et dire voilà, établir, former, encourager. Et pour vous, c'est important aussi que vous sachiez quelle est la vision de là où vous êtes placé, mais aussi votre vision pour votre vie personnelle. Ça ne doit pas être les 50 détails de je ne sais quoi. Une vision de Dieu est une chose très simple des fois. Elles doivent habiter en vous, elles doivent vous accompagner tous les jours. Quant à Jean-Baptiste, on lui dit « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis la voix qui crie dans le désert. » C'était simple pour lui. « Je prépare le chemin du Seigneur. » Je suis la voix. Donc, pour nous aussi, il ne faut pas que ça soit flou. Oui, je suis là, je fais, je ne sais. Je dois réfléchir longtemps avant que je sache quelle est ma vision. Donc, notre vision, en fait, elle est simple. Notre vision ici, c'est nous sommes une église où nous pouvons louer, adorer Dieu. Ça, c'est le principe de l'église. Nous sommes là pour former des disciples. Ça, c'est une réalité. Et une réalité qu'on trouve dans la parole de Dieu. Je dis finalement, la plupart des églises et œuvres doivent pouvoir se rejoindre sur l'essentiel. On ne peut pas inventer maintenant des nouvelles choses en disant, autrefois on faisait d'une certaine façon, mais maintenant, voilà, une nouvelle révélation pour le 21e siècle. Matthieu 28 est toujours d'actualité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et maintenant allez et faites des disciples. Et je dis, le besoin le plus criant pour chaque individu, c'est toi et moi. Chacun peut dire, c'est moi. Le besoin le plus criant, c'est de savoir, est-ce que je suis un disciple de Jésus ou non? Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je progresse? Le disciple apprend de son maître. Le disciple se consacre. Il fait des choses. Ah, je dis, quelle est la différence entre une école biblique et une église? Puisqu'on a lu là la vision. Alors, il y a des gens qui veulent cataloguer. Ils veulent dire, voilà, ça c'est une église. Ensuite, il y a une œuvre. Ensuite, il y a ceci et cela. Et on pense à des œuvres qui font du bon travail. Porte ouverte, qui travaille parmi les chrétiens persécutés. On peut penser à l'armée du salut, son implication sociale. On pourrait énumérer toutes sortes d'œuvres et d'églises qui font. Mais finalement, pour nous, les choses sont simples. Comme quelqu'un disait, oh, avec toutes ces religions, on s'en sort plus. Ben, il n'y a que deux religions, il y a celle de Dieu et celle du diable. Il n'y a que deux familles dans le monde. Et il n'y a que deux attitudes. Soit on est animé de l'esprit de Dieu, esprit de foi, esprit qui veut servir, qui veut bénir, ou animé d'un autre esprit. Les choses sont simples, finalement. Soit on travaille à l'édification du corps, soit on travaille à la destruction et à la dispersion du corps. Donc, quelle est la différence entre une école biblique? Une école biblique et l'Église, c'est l'école biblique, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut enseigner et former des disciples. Mais l'Église, elle veut faire quoi? Enseigner et former des disciples. L'Église n'est pas un endroit de récréation pour les chrétiens. Et alors, une poignée de guerriers serait pris au milieu de cette église, et ceux-là, on les envoie dans un truc spécial qui serait une école biblique. Ceux-là ont décidé de se former. Les autres, ils n'ont pas décidé de se former, mais ils sont impliqués. Les autres sont impliqués au même niveau, comprenez? Vous avez vos batailles contre le diable, et contre la chair, et contre tous les jours de votre vie. Vous ne pouvez pas dire, là, il y a une poignée de gens, eux, ils ont décidé de se former, les autres, non. Des fois, certaines illustrations ont leurs limites. On ne peut pas dire, mais dans la population en général, il y a les gens qui habitent un pays, et parmi ces gens, il y a un groupe de personnes, qu'on appelle les militaires, qui se sont engagés à faire le combat. Mais dans le corps de Christ, ça ne marche pas comme ça. Comprenez? On est tous appelés à être des combattants. On est tous appelés à mener le bon combat de la foi. Donc, j'aimerais gommer un peu ces limites qu'on a mis, ces petites cases qu'on a dans notre cerveau qui font que des fois, on s'abstient de certaines choses. On dit, ah, mais ça, c'est pas pour moi. Il y a des choses qui sont pour nous. La formation de disciples, c'est moi et mon maître tous les jours. Qu'est-ce que j'en apprends? Ésaïe 50. On va regarder ensemble, verset 4 et suivant, qu'on avait utilisé récemment dans la façon dont nous pouvons bénir avec notre langue et exercer le pouvoir. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, exercice, ça fait penser à cette discipline que certains s'appliquent, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Il éveille chaque matin mon oreille. Chaque matin, Dieu a quelque chose à nous dire. Je ne vous demande pas de vous lever à 4 heures du matin. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut se lever à 2 heures, 3 heures avant et passer l'ombre. Mais je vous demande, faites-vous une faveur. Laissez le Seigneur éveiller votre oreille chaque matin. N'attendez pas le soir. Si vous avez un bon moment avec le Seigneur le soir, c'est bien. Mais au moins un moment de réflexion, un moment, ça peut même être devant votre tasse de café, mais un moment où vous pensez à Dieu, vous écoutez, vous lui permettez de vous dire quelque chose qui vous sera peut-être utile pour le reste de votre journée. Chacun doit gérer sa journée. Et je ne suis pas là pour établir des règles de « il faut » et « il ne faut pas ». Mais simplement, je vous dis, qui imaginerait que le matin, je me réveille et je pars tout de suite dans ma journée. Et puis, un jour, c'est arrivé à Yonggisho, qui ont l'habitude de prier tôt. Et un jour, il dormait encore. Et sa belle-mère sonne, je crois, au téléphone, si je me rappelle bien l'histoire. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est déjà réuni, on t'attend. Donc l'église était en prière, du moins les gens, et le pasteur n'était pas encore là, il avait dormi hors chez eux, c'est très tôt. Hein. Et il arrive en se dépêchant, et tout le monde éclate de rire, il était encore en pyjama, il n'avait même pas pris le temps de se changer, tellement il était pressé de venir. Donc imaginez que justement, vous prenez pas le temps de vous changer, de vous habiller, vous partez dans la journée. Bah, assez rapidement, les gens pourraient rigoler quand on vous voit au bus ou sur vos... On n'imagine pas ça. Par contre, le chrétien, il se laisse berner parce qu'il ne se revêt pas de l'armure de Dieu. Il ne se prépare pas pour sa journée spirituellement. Et la première moitié ou la deuxième moitié de la journée, il a déjà pris tellement de coups par le diable qu'il en est juste appelé au secours, « Seigneur, sauve-moi ». alors que le bouclier de la foi est là pour éteindre les traits enflammés. Et encore une fois, je ne vous demande pas de passer des heures en méditation, en prière, en intercession, en lecture de la Bible. Il s'agit simplement de donner l'occasion au Seigneur d'éveiller votre oreille. Il y a peut-être quelque chose à vous dire. Et quand l'occasion se présente, vous prenez un temps prolongé. Mais vous avez des activités, vous avez des obligations, et je le comprends. Mais il y a un moment où il nous faut éveiller notre oreille. Et donc notre oreille spirituelle, il nous est dit qu'il veut nous éveiller. Le Seigneur, verset 5, « L'Éternel m'a ouvert l'oreille » et je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté. Il nous est dit de résister au diable, mais trop de gens, ils résistent à Dieu. Ils font les choses à l'envers. Quand Dieu veut nous dire quelque chose, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous brimer, c'est pas pour je ne sais quoi, c'est en vue de notre bien. Et on peut rester à Ésaïe 50, mais rappelez-vous de Ésaïe 1, 19, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile, beaucoup veulent aller dans le pays de Canaan où il y a des fruits excellents, etc. Mais quand vous voulez les bonnes choses de Dieu, il faut avoir de la bonne volonté et être docile. Si vous n'avez pas de la bonne volonté, si vous ne voulez pas, si vous résistez, vous vous cabrez, comme on dit. Si vous n'êtes pas docile, si vous voulez pas vous soumettre à Dieu, soumettre n'est pas un mot pénible quand il s'agit de notre relation avec Dieu. C'est comme quelqu'un dirait « je ne veux pas me mettre sous le parapluie ». C'est stupide. S'il y a une protection, je ne veux pas me mettre à l'ombre. Je veux que le soleil frappe ma tête. C'est idiot. Donc, la docilité, le fait de ne pas résister, et je ne me suis point retiré en arrière. Le Seigneur a dit, quiconque met la main à la charrue, il ne regarde pas en arrière. Sinon, il n'est pas digne de moi. Une fois qu'on a pris le chemin, on s'engage à continuer avec lui. Il éveille notre oreille et il veut nous former comme disciples. Je pense que on a des choses à dire au corps de Christ dans le sens de réveillez-vous, vous êtes dans vos cloisonnements, dans vos petites idées. Certaines idées ont marché pour un temps, mais ce n'est plus le moment de jouer à l'église. C'est le moment de commencer à entendre des choses de Dieu qui vont maintenant remettre les idées en place. Matthieu 28, je le relis encore une fois. Jésus s'étant approché, verset 18, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas dit juste enseignez-les. Enseignez-les dans le sens connaissance, donnez-leur beaucoup d'enseignements. Il est dit enseignez-leur à observer. Montrez-leur comment ça marche. C'est ça qui manque souvent, le comment ça marche. Comme dit mon ami le pasteur Ken Taylor, hein, le OMC, oui mais comment. Oui mais comment, chaque fois c'est ça qui nous intéresse. Des fois, on a déjà entendu 1000 fois de ce qu'il faut faire, mais personne nous a montré comment le faire. Et alors, c'est compliqué. Il y a une transmission du savoir, pas seulement du savoir d'un maître qui enseigne de façon magistrale, mais le plus efficace, c'est quand on montre à quelqu'un comment ça marche. Des fois, on dit, t'as qu'à faire comme ça. Ben oui, mais pour toi, c'est facile parce que c'est quelque chose que tu as appris. On parle d'être maître artisan de quelque chose, c'est quelqu'un qui a une expertise, qui sait faire. Mais il ne va pas dire à son apprenti, maintenant je te confie un travail, et puis ce soir je reviens et c'est fait. Il aura montré. Et on sait que des fois les apprentis, au début, ce n'est pas facile pour eux parce qu'ils ne font pas forcément des choses intéressantes. Hein. Ceux qui ont fait des stages, nos enfants font des stages d'une semaine, des fois, bon, pour découvrir le milieu de l'entreprise. Alors quand ils sont dans un salon de coiffure, pendant une semaine, ils auront balayé les cheveux qui sont par terre. Peut-être on leur aura laissé sécher les cheveux de quelqu'un qui aura eu un shampoing. Mais c'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'ils ont appris à faire une super coiffure, parce qu'il y a tout un apprentissage où des fois ça peut être frustrant. Mais avec Dieu, il y a aussi des choses que nous apprenons. On peut être un peu frustré au début parce qu'on dit « Oh, mais j'aimerais apprendre des vérités profondes, des révélations extraordinaires. » Et on recherche des choses compliquées alors que la réalité, elle est toute simple. C'est d'apprendre à pratiquer le fruit de l'esprit, à laisser Dieu dominer sur nous pour que l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, toutes ces choses se manifestent en nous. Et pas tellement des choses bizarroïdes, de révélations, de choses mystérieuses. Donc, la différence entre école biblique et église est finalement très fine. Ça, c'était mon premier point, de réfléchir à ça. Acte 19, c'est l'église d'Éphèse, la naissance de l'église d'Éphèse. Les premiers versets, on voit que Paul rencontre un groupe de personnes. Ce sont des hommes qui étaient disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient entendu parler du Messie Jésus qui devait venir. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'ils savaient sur Jésus, mais il y a des choses qu'ils n'avaient pas encore expérimentées. Et l'apôtre Paul leur parle du Saint-Esprit qu'on pouvait recevoir. Et donc, ils n'étaient pas au courant que cette nouvelle façon, disons que Dieu se manifeste sur les gens, était maintenant accessible. Paul leur explique, leur impose les mains, le Saint-Esprit nous est dit, vint sur eux, ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes, c'est un bon début pour une église, avoir 12 hommes remplis du Saint-Esprit. Et donc il nous est dit, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Spontanément, il allait dans la synagogue où les gens croyaient au même Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas un nouveau Dieu. Et donc spontanément, ils vont chez les leurs. Et ensuite il nous est dit, il a discouru sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il s'est efforcé de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, on peut dire, certains résistaient. Il restait endurci et incrédule. Non seulement ça, mais il décriait devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, séparait les disciples et enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alors quand on entend école, enseigner chaque jour, on dit, ah, c'est la première école biblique. Ben non, pas du tout. C'est juste, il se trouve que il a eu l'occasion d'avoir à sa disposition un endroit qui était une école pour prêcher. Mais c'était l'église. Comprenez? Parce que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est l'église. Deux ou trois qui sont assemblés pour entendre des enseignements, c'est l'église de Jésus-Christ. Qu'on lui donne une appellation d'école biblique ou non. Alors, je veux que vous compreniez que nous sommes la réalité de l'église partout où nous allons. Deux ou trois assemblés en son nom, nous sommes l'église. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous voyez, ce n'était pas un groupe de personnes triées sur le volet, qu'on dit, voilà, on est en train de former le commando du Seigneur. Ça va être les troupes d'assaut, les spécialistes, les experts. Non, c'était simplement une occasion que pendant toutes ces années, 2 années qu'il a enseigné, beaucoup ont entendu parler. Et les choses qui doivent se passer naturellement ou surnaturellement, quand la parole de Dieu est enseignée, c'est que Dieu confirme. Il confirme sa parole par des miracles extraordinaires. Donc nous, des miracles ordinaires déjà, ça nous fait plaisir de les voir, mais là encore des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, les maladies les quittaient, les esprits malins les sortaient. Donc une réalité de ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu agit. On n'a pas dit, et alors il a constitué une église et il l'a structurée d'une certaine façon, et il a créé un conseil d'administration, ensuite ils ont organisé les réunions hebdomadaires, etc., etc. Toutes sortes d'organisations qui peuvent être bien, mais nous devons garder le regard fixé sur la réalité de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, les gens reçoivent la parole, ils sont transformés et Dieu agit. Vous voyez, c'est simple. Il faut simplifier les choses. Mais d'un autre côté aussi, la formation n'est pas réservée à quelques-uns. La formation, c'est pour chacun. Chacun, chaque jour, se forme. Vous ne devez pas simplement dire, bon, qu'un tel, parce qu'il est dans un certain domaine professionnel, se forme, c'est normal, mais moi, non. Vous pouvez apprendre des tas de choses. Moi, par exemple, je m'intéresse à toutes sortes de choses, de développement personnel, psychologie, gestion. Il y a plein de choses qui peuvent nous être utiles parce que c'est des choses que vous faites. Vous faites des applications tous les jours dans votre vie sans le savoir. Vous devez, même si vous n'avez pas une grosse entreprise, vous devez gérer votre budget familial. Même si vous n'êtes pas un psychologue diplômé, mais vous êtes en relation avec les gens, ne serait-ce que les membres de votre famille ou vos collègues immédiats. Donc il y a plein de choses comme ça. Et même si peut-être vous ne faites pas des séminaires de développement personnel, mais si vous avez compris le principe de Dieu, il veut que vous puissiez travailler au salut de votre âme. Ça veut dire au développement de vos émotions, de votre intellect, de votre volonté. On parle des fois aussi dans le domaine sportif ou ailleurs que c'est le mental qui fait la différence. Des fois, on a deux personnes physiquement, ils ont les mêmes capacités. Il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Et quelqu'un a fait une méditation là-dessus, c'était le pasteur McCammon. Il dit, des fois, on dit simplement, l'un le voulait plus que l'autre. Il avait en lui ce désir d'aller au bout. Et l'autre a simplement dit, on va essayer. Et en essayant, ben, des fois, on peut aussi échouer. Et donc, nous, on a cette formule, dit, n'essaye pas, fais-le. Dans le sens que, on peut apprendre de nos échecs, mais on ne part pas en prévoyant l'échec. Et si l'échec arrive, on dit, bon, ok, j'ai une occasion maintenant de ne pas refaire la même erreur deux fois. C'était Oral Roberts qui avait dit, je ne fais jamais d'erreur, dans le sens que, il a dit, si j'échoue dans un domaine, je ne le refais pas une deuxième fois. Et il voulait exprimer par une formule choc un peu, je ne fais pas d'erreur. L'erreur serait de faire toujours la même chose et de penser que ça va marcher. Les scientifiques, avant d'avoir découvert ou fait des inventions, ils font une chose, ça ne marche pas. Alors ils modifient un paramètre. En chimie, on ajoute ou on retranche un composant. Et donc on essaye d'arriver au produit. Et puis on a dit de celui qui a inventé l'ampoule, hein? Voilà, Thomas Edison, combien de fois il a essayé? 2000 fois, je crois. Voilà, 2000 fois avant d'avoir finalisé cette ampoule électrique qui nous éclaire maintenant. À un moment, il a dit simplement, j'ai trouvé 2000 façons de ne pas faire l'ampoule électrique. Donc, toutes ces choses doivent nous parler qu'il y a des façons de réagir. Mais ceux qui réussissent à la fin, qui ont la gloire, il a inventé ça et tout le monde se rappelle de son nom. Mais personne ne parle de toutes ces heures qu'il a passées dans le labo à essayer encore et encore et encore. Et s'il avait arrêté la 1999e fois en disant « je laisse tomber », on ne l'aurait encore pas, on serait encore éclairé à la bougie. Simplement pour dire voilà la situation. Donc, on a vu se former, progresser encore et encore. Et le but, alors nous sommes maintenant l'Église. Non pas nous sommes dans une Église, mais nous sommes l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Quel est notre but? En fait, c'est très simple. Le but de l'Église, c'est la mission. Et le but de la mission, c'est l'Église. Nous sommes dans l'Église, nous sommes l'Église plutôt, et notre but, c'est la mission. La mission, c'est, se résume à Luc 4, par exemple, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Annoncer, proclamer la liberté aux captifs. Ça, c'est le but. Notre mission, elle est là, apporter ces choses. Même si nous sommes, par moment, appelés dans l'Église à soutenir quelqu'un qui peut être dans un des ministères de la parole, nous sommes tous pareils dans le sens que nous sommes des témoins, nous proclamons la parole. Nous sommes nous-mêmes investis de ça. Éphésiens 4 est très clair là-dessus. Les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Quand allez-vous rentrer dans votre ministère? Ben, vous y allez tous les jours si vous le voulez. Mais soyez conscient de ça. Je suis en train de travailler à tel endroit, mais en réalité, je suis à tel endroit parce que Dieu avait besoin d'un ambassadeur à cet endroit. C'est la première raison. Cette raison doit vous habiter. Vous qui êtes étudiant, vous n'êtes pas à l'université pour étudier d'abord, mais si vous avez compris les choses clairement, c'est que vous êtes d'abord appelé par Dieu parce qu'il a besoin d'un témoin là-bas. Ensuite, il se trouve que comme vous êtes là-bas, en même temps, vous apprenez des choses pour votre avenir. Et donc, notre perspective, c'est « je ne suis pas à mon lieu de travail pour gagner ma croûte », comme on dit. Ça, c'est vraiment le minimum, juste gagner sa croûte, le minimum, survivre. C'est un esprit de pauvreté, de mentalité pauvre. Non, je suis à mon lieu de travail parce que Dieu avait besoin qu'il y ait la lumière du monde et le sel de la terre à cet endroit. Ensuite, il se trouve que mon activité, en même temps, pourvoit mes besoins et me permet d'avoir des revenus qui assurent mes besoins matériels. Et donc, ça change ma mentalité. Ce n'est pas jouer sur les mots. C'est une façon de changer notre façon de voir les choses. Et Dieu, alors, est notre source. Il est celui qui nous dirige à certains endroits parce qu'il nous veut là. Et nous, on regarde à lui et on dit, s'il nous a amené là, c'est pour qu'on réussisse dans ce domaine. Et en même temps, il se trouve qu'il y a des choses qui se passent dans le domaine naturel. Et ça, ça nous aide. Parce qu'on a, quand on a des moments difficiles, ce n'est pas moi qui échoue. Ça veut dire que ma mission est menacée. Et alors je peux me confier en lui. Vous voyez la différence? Ma mission est menacée. Donc le but de l'Église, c'est la mission. Et non le confort des membres. On a déjà parlé là-dessus, je crois, à certaines occasions, à certaines églises, dans certains endroits, elles ne peuvent pas réussir s'il n'y a pas la climatisation. même s'il fait chaud, même si c'est dur, mais notre première motivation ne doit pas être est-ce qu'il va faire bien chaud ou est-ce qu'il va faire bien frais. C'est est-ce que Dieu me veut là ou non? Qu'est-ce qu'on accomplit? Mais, je vous rassure, ça ne veut pas dire que les membres doivent être mal à l'aise, inconfortables, etc. Nous sommes là pour réconforter ceux qui sont affligés. L'Église apporte la consolation, le réconfort. C'est là qu'on doit y trouver, non pas la dispute, non pas les divisions, on doit y trouver des solutions, on doit y trouver de l'aide. Donc on est là pour réconforter les affligés. On est là pour donner une solution là où le monde n'en propose pas. Parce que des fois, dans le monde, on a des expressions, il n'y a pas de miracle, là, on ne peut rien faire, etc. Nous avons toujours une réponse en Jésus. En même temps, l'Église est là aussi pour déranger ceux qui sont confortables. Parce qu'on veut des fois du prophétique, on court à droite, à gauche pour écouter le prophète ou la prophétesse un tel. Mais le prophétique, parler de la part de Dieu, c'est décourager aussi ceux qui sont confortables de rester dans leur confort et d'oublier les autres. Où au bout d'un moment, tout tourne autour de nous. Et quand je dis tout tourne autour de nous, ça veut dire qu'on a perdu la vision d'aller vers l'extérieur, vers la mission. Mais ce qui est rassurant, c'est que la Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Une fois qu'on a compris ça, on va aider quelqu'un et on se rend compte que plus je m'engage dans cette dimension, plus je reçois moi-même. C'est l'idée que le tuyau est le premier à être mouillé. Mais le but n'est pas de mouiller le tuyau, le but c'est d'amener l'eau là où il y en a besoin. Mais il se trouve que, comme je le fais pour moi-même, le fait de préparer un message pour enseigner ou prêcher, je passe des heures dans la parole de Dieu et j'en suis le premier bénéficiaire. Je nourris ma foi, je connais ma Bible, je connais mon Dieu, je connais ses promesses. Après, je peux les donner aux autres. Et en faisant ça, eh bien, je me fais du bien à moi-même. Donc, le but de l'Église, c'est la mission. Et le fait d'être formé dans la parole de Dieu nous permet aussi, on a vu tout à l'heure la vision de Réma, c'était établir le chrétien à travers un solide fondement de la parole de Dieu. C'est aussi être à l'abri de certaines folies qui circule encore dans le corps de Christ, encore et toujours. Je vous assure, l'autre fois, j'ai vu un extrait d'une émission télévision sur, entre autres, il parlait de sectes, de phénomènes surnaturels, etc. Et ils avaient un extrait d'une réunion dans une église où le prédicateur était en train d'expliquer que certains démons étaient des démons lunaires. Et c'est parce que les astronautes sont allés sur la Lune, Apollo, et ils les ont ramenés dans leur vaisseau spatial quand ils sont revenus sur Terre. Et je vois heureusement que certaines personnes ici éclatent de rire, d'autres secouent la tête parce qu'on n'y croit pas. Mais moi, ce qui me concerne, c'est pas qu'un homme puisse dire une bêtise comme ça. C'est que des gens le suivent et l'écoutent. Mais immédiatement, il faudrait se lever et quitter cet endroit et fuir le plus loin possible. Et voilà comment le monde est en train de passer une séquence d'une soi-disant réunion chrétienne sur des grandes chaînes pour montrer aux gens combien c'est stupide. Mais il faut que l'Église ait le courage de dire, voilà ce qui est stupide. Il faut que l'Église forme les chrétiens pour dire, arrêtez la folie. Les démons lunaires, et quoi encore? Non, mais c'est vraiment incroyable de voir tout ce qui peut se passer. Et nous avons besoin de connaître ce qui nous appartient. Nous avons besoin de dire, je respecte la personne. Je ne vais pas la critiquer, je ne vais pas... Mais il y a des ministères aussi qui se trompent. Est-ce qu'ils ont tout faux? Bien sûr que non. Il y a des choses qu'ils disent qui sont justes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont justes qu'il faut que je les suive dans n'importe quoi. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est d'aller vers notre bonne vieille Bible et de lire encore et encore ce qui a été écrit pour notre bénéfice. Et pour notre bénéfice, on a été écrit Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Je crois que l'homme recherche toujours la gloire de Dieu. Depuis qu'on a été privé de la gloire de Dieu, Romains 3, 23, hein, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Depuis, on le recherche toujours, toujours, toujours. C'est comme un vide au fond de nous. On recherche de nouveau cette communion avec lui. Mais la gloire de Dieu, c'est pas seulement un phénomène, quelque chose de magique, quelque chose de merveilleux. La gloire de Dieu, c'est aussi tout ce qui lui donne gloire, tout ce qui le glorifie. Si vous portez beaucoup de fruits, Jean 15, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Y a-t-il la moindre gloire pour Dieu quand on assiste à des réunions de folie comme ça, on nous parle de démons lunaires, je prends maintenant cette expression, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et qu'on est en train d'expliquer aux gens qu'ils ont eu une révélation, mais personne ne peut croire ça. Ben si, il y en a quand même qui sont assez crédules. J'avais un pasteur de mes amis, il disait, si je disais maintenant aux gens que je viens d'arriver de Mars il y a 3 jours, il y en aura qui me croiraient. Peut-être vous me dites, ben non, il n'y a pas de vie sur Mars, etc. Mais vous savez, à force d'avoir des émissions de fantastiques avec d'autres dimensions, etc., on dit oui, ton œil ne voit pas qu'il y a de la vie sur Mars, mais en réalité, dans une autre dimension, il y en a. Donc, il est certainement venu d'une autre dimension. C'est-à-dire, tout est maintenant ouvert à toutes sortes d'imaginations. Mais c'est là que la parole de Dieu nous dit que nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses de raisonnement. Tout ce qui s'élève contre la hauteur de Dieu et pour nous ramener à la réalité physique et aussi spirituelle de ce que la Bible nous montre que nous sommes. Et dans Éphésiens 2, il nous est dit au verset 4, « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et là, je dirais, revenons à la simplicité de l'Évangile. C'est tellement simple. Il est venu ici pour nous chercher et pour nous amener là où il est maintenant. Et spirituellement, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ah bah oui, pas physiquement. Physiquement, vous êtes assis là sur vos chaises. Mais spirituellement, nous avons une position en Christ qui nous est décrite ici dans la parole de Dieu. Troisième et dernier point, le but de la mission, c'est l'Église. Nous avons un but. À force de faire sortir la parole n'est pas seulement destinée à former des individus qui connaissent mieux la Bible. Elle est destinée à ce que l'Église, dans son ensemble, grandisse. Et cette Église, dans Éphésiens 4, il nous est dit ce qu'elle fait. De lui, par Jésus. Éphésiens 4, 16. Grâce à tous les liens de son assistance, tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. L'Église se construit, l'Église s'assemble, l'Église se solidifie. Alors, concrètement et localement ici, même si ici, malgré tout notre travail et toute la parole qui sort de cet endroit, pour le moment, nous ne voyons pas plein de gens qui se rajoutent à l'Église et cette Église croître numériquement et se constituer. Mais je dirais, c'est secondaire pour le moment. La vision principale, c'est que la parole, elle fait son travail, elle accomplit sa mission au travers de chacun d'entre vous, pas seulement au travers de ce qui est prêché et enregistré, mais au travers de chacun d'entre vous, l'Église est en train de se constituer. Et l'Église remplit son travail, et l'Église est le but de la mission. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le monde entier qui entendent la parole et qui sont poussés par Dieu à travailler à l'Église, travailler au corps. Et que malgré la distance, au niveau kilomètre que nous avons avec certains, ça peut être des dizaines, des centaines ou des milliers de kilomètres, il y a une réalité du corps qui est là. Il y a des gens avec qui nous nous sentons proches, on parle le même langage de la foi. Et il y a des choses qui se construisent ailleurs. Alors, moi, je continue d'être enthousiaste pour le plan de Dieu et dans lequel il nous a fait travailler et œuvrer. Et je continue dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, ne vous laissez pas distraire par plein de choses, ne vous laissez pas aller, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Poursuivez les choses de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et maintenant je me rends compte aussi, particulièrement de ce que le monde occidental connaît, et qu'on propose aux jeunes, par rapport aux émissions qui sont proposées, aux séries et aux films, l'immense succès de Harry Potter. Il y a là beaucoup de personnes qui regardent ou qui lisent, et ça ne les choque pas un instant que ces jeunes gens puissent parler dans des langages magiques et avoir de la puissance dans leurs paroles. Par contre, des chrétiens bien pensants, quand vous leur parlez de la puissance de l'Esprit et de pouvoir parler en langue et que l'Esprit de Dieu se saisisse de vous et que vous soyez capable de faire l'œuvre de Dieu, on dit non, 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 c'est pas possible. Il y a un tel fossé entre les deux en disant le monde est en train d'être conditionné par le diable à trouver des choses normales qui pourtant sont surnaturelles. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas de réalité. Par contre, une partie des chrétiens, à cause de leur limitation au niveau de leur raisonnement, et refuse que l'Esprit de Dieu puisse agir d'une certaine manière dans notre vie. Moi, au contraire, quand je vois un sorcier parler dans son langage de transe ou de je ne sais quoi, moi, ça me conforte encore davantage de dire oui, parce qu'il y a une réalité dans le pouvoir des mots et que nous utilisons pour la gloire de Dieu. et que nous voulons aussi qu'en même temps qu'il y ait une réalité dans notre vie de la transformation qui s'opère. Donc, entretenons-nous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, des choses spirituelles qui construisent notre esprit, chantant, célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. C'est dirigé, c'est orienté. Je ne vais pas commencer à blasphémer en faisant ça, puisque de tout mon cœur, je veux chanter les louanges du Seigneur. Je rends continuellement grâce à Dieu. On sait que quand on est dans une attitude de gratitude, on est toujours dans le bon sens. Quand on commence à rouspéter, murmurer, critiquer, là, il y a quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et pour terminer, 1 Thessaloniciens 5, qui va un peu dans le même sens d'ailleurs, bien sûr. Tout va dans le même sens, dans ce qui veut nous élever, nous amener plus près de lui. Verset 16, soyez toujours joyeux. Un bon test, est-ce que vous êtes joyeux? 17, priez sans cesse. Soyez toujours en communion avec Dieu, parlez-lui sans cesse, entendez de lui. 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, soyez attentifs de que l'esprit de Dieu se manifeste dans votre vie au milieu de vous. Ne méprisez pas les prophéties, ne permettez pas à vos raisonnements de bloquer ce que Dieu dit. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et que le Dieu de paix, ça je le proclame sur chacun d'entre nous, que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.